Radio Stable.
Morning Edition from
NPR News. Radio que se reproduce y esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, dans Un jour dans le monde, nous faisons une large part au lauréat ou la lauréate du prix France Inter JDD du livre étranger. L'auteur est là avec nous. On parlera longuement de son livre, évidemment. On espère surtout qu'on vous donnera largement envie de vous y plonger. Vous verrez que c'est formidable. Sous les radars. Et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, nous serons en Russie, au Pakistan et en Zambie. 18h50, comme ça que je dis, l'Europe, on l'aime ou on la quitte. Angélique Boin est à Bucarest pour nous raconter le voyage de Jean-Claude Juncker chez ceux qui vont présider l'Union depuis le 1er janvier, et je peux vous dire qu'on se regarde un peu en chien de faïence. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four en RDC. Ce soir, bien sûr, il y a de la bouteille à moitié vide et à moitié pleine dans ce qui se passe pour l'instant. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Hès. Un jour dans le monde.
C'est la troisième année donc que France Inter et le journal du dimanche décernent leur prix du livre étranger. Cette année, le lauréat ou lauréate succède à Paul Auster l'an dernier. Donc sacrée succession, c'était pour 4-3-2-1 dans mes souvenirs. Pas dans mes souvenirs d'ailleurs, c'était bien ça. Avant de vous donner le nom de notre regagnant ou gagnante, le prix de cette année qui est là juste en studio, c'est un peu ridicule de pas le dire là pour l'instant, mais c'est comme ça que ça marche. On est heureux quand même de vous parler de ceux qui étaient en lice, ceux qui ont fait la shortlist comme on dit, et qui pour l'instant sont restés là, mais qui mérite vraiment qu'on les lise. Bonsoir Ilana Mor-Youssef, d'abord,
bonsoir,
qui s'occupe des livres à France Inter. Bonsoir Marie-Laure Delorme.
Bonsoir.
Du journal du dimanche. Vous avez participé toutes les deux à la sélection et au choix avec Augustin Trapenard, avec Nicolas Demorand, avec Anne-Julie Bémond de Radio France, avec François Véry, avec Laetitia Favreau du JDD. Un mot donc sur ces quatre autres, d'abord, les livres qui ont quand même retenu très largement notre attention. Marie-Laure Delorme, peut-être pour commencer.
Alors, ils sont cinq. Il y a l'énigme Elsa Vess de Miral Ben Naftali, chez Actes Sud. C'est un premier roman. L'auteur est né à Tel Aviv et elle reconstitue la vie de son professeur d'anglais survivant de la Shoah. Et elle tente de percer le mystère d'une femme qui est morte sans laisser aucun témoignage.
Mm-hmm. Ilana ?
Alors, le deuxième livre est un livre américain qui s'appelle Après Maïda de Katharine Dion aux éditions Gallmeister. C'est un roman sur le deuil, sur le chagrin. Jean, le personnage principal, se souvient de son épouse, Maïda, morte après 50 ans de vie commune.
Voilà, un petit troisième.
Les Outrages de Gaspard Colling Nielsen chez Kalman Levy. On parle à propos de l'auteur de Houellebecq scandinave.
Il est danois, ça.
Exactement. Mmh. Il se penche sur les migrations, la ségrégation sociale, l'addiction sexuelle au Danemark. C'est une satire noire.
Voilà. Et puis, il y en a pour terminer un ouvrage qui s'appelle China Dream.
De Majian, un auteur chinois, ouais, qui vit à Londres, qui est publié chez Flammarion. Et c'est un portrait, en quelque sorte, de la Chine d'aujourd'hui, livré à l'amnésie imposée par l'appareil d'État.
Voilà, le choix, comme d'habitude, a été difficile, mais on est content de vous donner ces titres-là, qui seront sur le site d'Un jour dans le monde aussi, et que vous êtes amené évidemment à lire si vous le souhaitez, Marie-Laure, pardon.
Et il y a donc un cinquième titre.
Ah, hein. Mais évidemment, et le cinquième titre est là, est avec nous. J'arrive là, j'étais en train d'y arriver. C'est donc le livre d'Alexandria Marzano Lesnevich, bonsoir. Ça s'appelle L'Empreinte. C'est vous la grande gagnante. On est ravis que ce soit vous. J'imagine que vous l'êtes aussi. Publié chez Sonatine.
I am indeed delighted.
En effet, je suis absolument ravie.
Having me here, this is wonderful.
Et merci de me recevoir.
On va essayer de résumer rapidement, Alexandria Marzano Lesnevich, votre ouvrage. Vous êtes étudiante en droit quand commence le récit, très sûre de vos opinions, notamment contre la peine de mort. Et puis vous êtes amenée à travailler sur le cas d'un tueur qui est emprisonné en Louisiane. C'est un tueur d'enfants, c'est aussi un pédophile. Et en même temps que vous avancez sur son affaire, sur son histoire, vous ne pouvez pas ne pas être confrontée à votre propre histoire, à vous, à votre mémoire aussi, d'enfants abusés. Et c'est tout ça que vous interrogez à la fois par des allers-retours dans le temps aussi, votre histoire, celle du tueur, la peine de mort, le déni également, celui de votre famille, le vôtre d'un certain côté, tout ça mêlé à la même histoire. Le personnage du tueur pédophile, le personnage s'appelle Ricky, et vous écrivez à son sujet, je vais retrouver la page tout de suite, vous écrivez il est bien possible que ce que l'on voit en Ricky dépende davantage de qui l'on est soi, de qui il est lui. Et peut-être que c'est ça, au fond, d'une certaine façon, la clé. L'histoire de Ricky et la vôtre se confondent. À quel moment vous comprenez que vos deux histoires vont se mêler et que peut-être l'une va sauver l'autre ?
mind and one might save the other.
I tried so many times to write this in ways that would not have them entwined.
J'ai essayé tellement souvent d'essayer une histoire qui serait plus comme un reportage journalistique de ce crime et de ne pas croiser ces histoires et de ne pas rentrer dans le côté émotionnel de mes propres origines. Mais les deux histoires s'appelaient l'une l'autre, s'attiraient comme si mon subconscient me prévenait de ce qui se passait avant que moi je le comprenne.
Vous avez une phrase d'ailleurs, vous parlez de collision entre Ricky et vous. À un moment, on sent que la collision est inévitable en fait.
To me, that word is really important. Collision.
Oui, ce mot de collision, il est absolument essentiel.
It was a almost violent in myself the way that these two things collided, the way that my memories would come and overtake me.
C'est comme ça que ça s'est produit. Il y a eu cette énorme collision entre cette histoire et les chemins où m'avaient mené mes propres souvenirs. Mais c'était irrationnel. Je me disais, je ne veux pas succomber à mes émotions. Je ne veux pas me laisser envahir par mes émotions. Et puis je me rendu compte que les émotions, ça fait partie du droit. Les sentiments ont toute leur place dans le système juridique. Car c'est tout cela que ça mêle. Et je voulais écrire un livre qui fasse passer cela, qui nous montre que toutes nos histoires ont des points communs et qu'on peut se comprendre les uns les autres en regardant nos histoires et nos vies.
Est-ce qu'à un moment, vous avez le sentiment, au fond, que vous l'avez utilisé, ce Ricky, en fait, pour soigner votre propre traumatisme ? À quel moment vous finissez par vous appuyer sur vous ? Il vous aide, il vous sert, et vous l'utilisez réellement, en fait ?
I think I more had the sensation of wanting to try to understand.
J'avais davantage la sensation, l'envie de vouloir le comprendre et le connaître au mieux possible. J'avais étudié des centaines, des milliers de pages de dossiers, de récits sur sa vie. J'avais même les comptes rendus de ses séances de thérapie avec sa psy. Donc je ne dirais pas que je l'utilisais et que j'ai utilisé ce personnage, mais qu'il fallait absolument que je le comprenne et que son histoire avait été trop réductrice, trop simplifiée et qu'il fallait lui redonner sa complexité. Il faut accepter la complexité dans le système juridique et la complexité de nos propres vies et de nos propres histoires familiales.
Vous dites d'ailleurs que vous avez fini par le considérer comme une personne à part entière, ce sont vos mots, et vous le considérez comme une personne à part entière parce que vous réalisez qu'il a essayé lui aussi de lutter contre ses propres pulsions, et rien que pour ça, il mérite votre attention. C'est ce qui vous ramène d'ailleurs, vous, à votre propre histoire aussi.
That was a very difficult realization because I really didn't want to at first.
C'était difficile de prendre
conscience. Vous voulez qu'il meure au début.
My first reaction, absolutely, despite
exactement, c'est cela. Malgré mes convictions contre la peine de mort, lors de ma première rencontre avec ce personnage, ma réaction a été complètement émotive uniquement. Je voulais qu'il meure. Et puis il y a eu cette petite étincelle qui a fait que j'ai réussi à éprouver de l'empathie pour lui. Et je lisais tous ces documents qui racontaient sa vie quand il avait 18 ans, 20 ans. Et j'ai vu qu'en fait ce gars était piégé. J'ai compris combien il était malheureux et combien le système l'avait enfoncé, ne l'avait pas aidé. Mais bien sûr, tout ça est toujours très compliqué parce que j'ai éprouvé cette empathie et puis à mesure que j'avançais dans les documents juridiques, je découvrais d'autres horreurs qu'il avait commises. Et donc, j'étais dans une navette, un flux perpétuel. Je changeais d'avis et je voudrais que les lecteurs sentent ça aussi.
Et on le sent effectivement beaucoup quand on vous lit. On sent aussi le désarroi lorsque la mère de la victime, veut sauver l'assassin de son fils au fond. Elle ne pardonne pas, mais elle veut pas sa mort. Et c'est exactement ce que vous ressentiez aussi pour votre grand-père. Vous ne pardonnez pas, mais vous ne vouliez pas sa mort.
It's very much that. And Lorelai Gilroy, who's the mother,
c'est tout à fait proche. Et Lorelai, la mère de la petite victime de ce petit garçon, elle a pris une décision tellement courageuse. Elle a voulu témoigner en faveur de l'assassin. C'est ça aussi qui m'a donné envie d'aller plus loin dans cette histoire. Mais là encore, c'était compliqué pour moi. Je voulais voir cette femme, Lorelai, comme une héroïne. Mais je voulais aussi, je la voyais aussi, forcément, à travers mes yeux d'enfant qui avait été abusée. J'avais du mal à comprendre qu'elle veuille sauver la peau de l'assassin de son fils. Et je crois que c'est son signe particulier, justement, qui l'a rendue complètement unique, cette femme. Elle ne voulait pas qu'il meure.
Ilana Marioussef.
Alors, l'autre aspect de votre livre, c'est l'enquête que vous menez dans votre propre famille, qui, quand l'inceste est découvert au début, presque par hasard, réagit par une forme de déni. Et c'est peut-être la partie la plus difficile, non?
Oui,
certains passages étaient plus difficiles à écrire, mais je crois que ça m'a aidé d'avoir ces deux histoires à mener en parallèle, parce que quand je coinçais sur une des branches, je me rattrapais à l'autre.
C'est vrai
qu'il y a des moments d'espoir, tout n'est pas noir dans cette histoire, mais c'était très difficile de creuser mon passé. Et ce livre a été écrit, je crois, en réponse à cette énorme chape de silence qu'a imposé ma famille, ce déni que vous évoquez, justement, oui, ce silence imposé. Et puis à cela répondait le silence du système juridique qui refusait de regarder la complexité de ce cas, de cette affaire tragique.
Marie-Laure, peut-être.
C'est un livre qui vous happe et qui vous déroute à la fois, qui vous happe parce qu'il y a une construction qui ménage le suspense et qui vous déroute par la manière dont vous affrontez la vérité. C'est un livre qui est à la fois pourvoyeur de fiction et pourvoyeur de réflexion. Je voulais savoir si c'est important de savoir à quel genre littéraire il appartient. What literary genre it
belongs to. I think I'm most drawn as a reader and obviously as a writer to work that blurs the lines of genre.
En tant que lectrice et en tant qu'écrivain aussi, j'aime bien que les lignes de genre soient un peu floues. Et moi, j'aime découvrir une histoire, quel que soit son genre. Mais j'aime aussi quelque chose qui m'accroche, qui me capture, comme vous dites, et qu'on ait envie de tourner la page. Et ce que j'aime aussi, c'est d'arriver à emmener le lecteur dans des recoins un petit peu compliqués. Et pour gagner la confiance du lecteur et lui donner envie de me suivre, j'ai l'impression que c'est ça que je dois leur donner, ce côté suspense. Mais bon, moi j'accepte le genre que vous voulez, mais en tout cas j'aime bien que ces lignes soient un petit peu floues.
Pour revenir à ce que disait Ilana à l'instant sur le déni, qui est une grosse part importante, il y a ce passage où vous êtes avec votre famille et quelqu'un dit « qu'est-ce que vous faites en ce moment ?» Bah, elle écrit un livre sur une histoire qu'elle est dont elle est la seule à se souvenir. Ça veut dire que ce déni-là, aujourd'hui encore, est exactement le même. Cette conversation avec vos parents au sujet de votre grand-père, vous ne l'avez finalement jamais eu vraiment.
Un peu plus loin dans le livre, on va au-delà du déni. C'est-à-dire que ma sœur corrige mon père. Elle
votre
dit
sœur,
non,
oui,
on s'en vient,
qui
on
a été victime elle aussi.
C'est juste que nous ne parlerons pas de ça. Mais c'est juste qu'ils ne veulent pas en parler. Et je voulais écrire là-dessus, justement. Parce que là aussi, il y a un écho avec l'histoire de Ricky Langley. On sait que c'est un meurtrier, mais on ne sait toujours pas quoi faire de lui, comment le gérer. Et je crois que ces histoires d'inceste, hélas, vous savez, sont extrêmement répandues. Donc, ce qu'a connu ma famille, ce qu'on a traversé, beaucoup d'autres familles l'ont vécu aussi. Et je crois que très souvent, c'est une réaction très commune. Ce n'est pas vraiment un déni complètement, mais c'est qu'on ne veut pas en parler. On n'en parle pas. Et beaucoup d'écrivains, je crois, sont motivés à écrire parce que c'est un acte de parole, l'écriture quand même. Et je crois qu'en réaction, beaucoup d'écrivains ont connu des histoires pareil dans leur enfance, et c'est ça qui les pousse à écrire.
Ilana ?
Ce qui m'a fascinée dans ce livre, c'est que, comme ça, raconté de prime abord, ça pourrait paraître une histoire avec beaucoup de choses sordides, mais c'est pas du tout sordide. Et j'ai le sentiment que le livre est une espèce de grand affrontement entre l'intelligence et ce qui ne peut pas être dit. Et en fait, ce que nous montre le livre, c'est ce dont est capable l'intelligence face à l'indicible. Et c'est comme au tout début, quand vous découvrez la vidéo avec les aveux de Ricky, vous dites « je veux que cet homme meure ». Et puis, tout de suite après, vous vous dites « je ne peux pas vouloir que cet homme meure ».
Thank you. That again, that dialectic lexic relationship was really important to me.
Relevé cela. Oui, ce mouvement dialogue, c'était important pour moi de l'installer. Vous savez, je suis très influencée par Tchekhov et qui disait qu'il ne faut jamais surjouer le chagrin. C'est plus intense quand on le minimise. Mais on veut évidemment que le lecteur ressente pleinement toutes ses émotions. Et c'était ce que je voulais créer. Bien sûr, mon matériau de départ était un peu ingrat, difficile, et pourtant, je voulais que les lecteurs soient vraiment accrochés, captivés, et puis qu'ils acceptent aussi de voir et de réfléchir et de discuter avec d'autres des sujets compliqués que je voulais aborder.
Alors, dans le cadre des sujets compliqués, d'ailleurs, on a le sentiment en vous lisant que, au fond, vous pensez que le droit est une vocation, mais non, en fait, c'est plutôt une manière d'affronter votre propre vie. Aujourd'hui, vous n'en faites plus. Est-ce que ça veut dire que cette histoire vous a permis d'expurger aussi ça, en fait ? On n'a plus besoin de vous plonger dans le droit, plus besoin d'être dans ce genre de domaine-là, puisque vous avez réussi à expurger à la fois votre vie et celle de Ricky en même temps.
I quit law because I did not want to have to disappear into an argument, and I wanted to make space for emotion.
So I was. Je ne voulais pas que ça soit simplement un argument juridique. Je continue d'écrire sur des questions qui ont trait au droit. Et je donnais d'ailleurs des cours d'anglais à de futurs avocats. Donc le droit continue de m'intéresser. Mais dans ce qui m'intéresse dans le droit, c'est cette collision d'histoires qui se rencontrent. Et à la fac de droit, j'étais un peu frustrée parce qu'on ne parlait jamais de cela, qu'en fait, le droit, tous ses précédents, ce sont des histoires réelles de personnes en chair et en os. Et le droit, ce n'est pas simplement dénouer un mystère, découvrir qui l'a fait, qui a commis le crime.
Sauf que l'émotion est interdite. Sauf que l'émotion est interdite.
Ah, so we say. So we
ben
say.
Oui, c'est ce qu'il paraît. C'est ce qu'on cherche à imposer.
There were three trials. There will actually now be a fourth. After the book was published, not in a way that had to do with the book, the third verdict was thrown out and there will now be a fourth trial, which is quite remarkable.
Mais en fait, il y a eu trois procès. Il devait même y en avoir un quatrième. Il y a eu trois procès. Et quand on regarde les documents, au premier procès, Ricky Langley a été condamné à mort. Au deuxième procès, il a été condamné à la perpétuité. Et la différence, c'était les gens qui composaient le jury. Et pourquoi ils ont réagi avec des émotions différentes? Parce que c'était des êtres différents qui étaient nourris par d'autres émotions. Donc on essaye d'expurger les émotions, les sentiments du droit, mais nous sommes tous humains, nous sommes des créatures pétris d'émotions. Et c'est là-dessus que je voulais écrire.
Marie-Laure.
Nous sommes pétris d'émotions. Et justement, est-ce que, à un moment, vous êtes posé la question de l'empathie? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un moment où il faut s'arrêter de comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas un danger de l'empathie?
Absolutely, it can be dangerous.
Vous avez tout à fait raison. L'empathie peut devenir dangereuse. Et d'ailleurs, c'est devenu un livre qui traite de l'empathie. Je ne l'avais pas prévu ainsi. Mais à mesure que j'épluchais tous les documents sur la vie de Ricky, j'avais l'impression d'être un peu chargée de la conservation de toutes ses archives. Et j'avais davantage d'informations que lui-même a pu en réunir. à aucun moment de sa vie. Et c'est vrai que cette empathie que j'éprouvais pour lui pouvait m'entraîner dans des coins dangereux. Il y avait des erreurs que j'ai commises à cause de mon empathie, justement. Je ne voyais pas les choses de manière claire, toujours. Et je savais qu'on explorait des questions et des recoins très compliqués, très complexes. Mais j'espère que j'ai réussi à éclaircir ce qu'était cet homme, ce personnage, sans cacher la complexité, en demandant au lecteur de mettre tout ça dans la balance, que Ricky, c'est à la fois un meurtrier et un petit garçon perdu, comme mon grand-père était celui qui a abusé de moi et en même temps celui qui m'a transmis quelque chose.
Et pour terminer, vous avez fini par le rencontrer, le Ricky, mais vous ne dites pas comment ça s'est passé, puisque c'est comme ça que ça se termine. Moi, je suis quand même un peu curieuse. J'ai envie de savoir comment ça s'est passé avec Ricky. Et si vous l'avez vu qu'une fois, d'ailleurs.
You know, I can't answer that, but I will say
je ne peux pas vous répondre.
Hello, bonjour.
Mais voilà, c'est là-dessus que se termine le livre. Je vois Ricky pour la première fois et je lui dis bonjour. Je salue l'humain.
Mais
avec ce livre, comme dans la vie, toute fin est le signal d'un début. Ça indique ce qui va venir après. Voilà, je voulais ouvrir sur la suite, sur l'après.
Et en tout cas, c'est un vrai plaisir et nous, on est contents que vous soyez le prix du livre étranger, Journal du Dimanche France Inter cette année. Ça s'appelle L'Empreinte, signé Alexandria Marzano-Lesnevich. Merci mille fois, c'est publié chez Sonatine.
On ajoute, Fabienne, juste que c'est traduit de l'anglais.
Mais j'allais exactement le dire par Louise Esquier, absolument, on n'oublie pas ça. Et on remercie FDR aussi, bien sûr, pour la traduction simultanée. Merci à vous les filles. On vous retrouve, Alexandria, demain sur France Inter, chez Augustin Trapenard, à partir de 9h10. Merci mille fois.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde sous les radars avec Amélie Perrier. On va parler cinéma en Russie, télévision au Pakistan, boissons énergétiques en Zambie, l'Europe qu'on aime ou qu'on quitte en Roumanie, présidente d'une union pour 6 mois avec Jean-Claude Juncker qui est en visite. Ce sera avec Angélique Boin. Le monde à l'envers, c'est Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Avec des élections en RDC, bonnes et mauvaises nouvelles à la fois.
Est-ce un moment d'histoire, une grande alternance démocratique en Afrique ou bien une super embrouille du pouvoir en place? On va essayer de faire la part des choses.
Allez, le tour de la planète continue à tout à l'heure. Jean-Marc, il passe par le Royaume-Uni, tiens les voilà, les Beatles, Strawberry Fields Forever. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
You know, I know, and it's a dream. I think I know I mean yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever.
Qui s'appelle les Scarabées et qui chante une histoire de champ de fraises, ça marchera jamais cette histoire.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Amélie Perrier. Amélie, on part en Russie tout de suite où un film fait beaucoup parler.
Ouais, le titre, c'est T-34. C'est le nom d'un char soviétique symbole de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie.
Tank.
Est réalisé par Alexei Sidorov. Ça raconte pendant la Seconde Guerre mondiale les combats et la capture d'un lieutenant, Ivouchkine, prisonnier des nazis. Et pour son premier week-end en salle, T-34 bat tous les records. Il a, c'est vrai, bénéficié d'une large couverture médiatique dans les médias gouvernementaux. Le dévouement à la patrie, c'est l'un des thèmes préférés du président Poutine. Et les films, à la gloire de la Grande Russie, ça fait des entrées là-bas. Il y a quelques semaines, une comédie romantique sur le pont de Crimée a également rencontré un beau succès. Tout comme il y a un peu plus d'un an, le film racontant la victoire surprise de l'équipe de basket soviétique au JO de 72 contre les États-Unis. Plus gros succès commercial de l'histoire du cinéma russe. Il existe quand même une place hein, pour les voix dissidentes.
А как вас ранило? Да в первый же день.
Là, c'est Praznik, la fête, une comédie noire pendant le terrible blocus de Leningrad. Critiqué, accusé de blasphème, ce film a été entièrement financé par des fonds privés et son réalisateur a choisi de le diffuser sur YouTube. Quand même, il a dépassé les 820 000 vues.
Allez, on passe au petit écran et au Pakistan, là aussi menace de censure.
L'autorité qui régule les chaînes de télé n'en peut plus des scènes de lit, des moments intimes entre couples.
Non, scènes de lit,
oui.
Que diable.
Et bien comme ici.
Chami.
Alors là, c'est le feuilleton Mère Bewafa. Une jeune épouse vient réveiller son mari en faisant pleuvoir au-dessus de son oreiller des fleurs de jasmin.
Ah bah quand même.
Son époux la rembarre et se rendort. Ce qui choque là les autorités du pays, hein, très conservateurs. On le rappelle, c'est pas la guimauve, hein, un break.
C'est qui se rendort.
Peut-être. Non, en fait, elle considère que tout cela est indécent, trop intime. Et on parle pas des relations là extra-conjugales montrées également à l'écran, de l'usage des drogues ou de l'alcool. Tout ça est sur le point d'être banni. Il faut dire que les scénaristes écrivaient des intrigues de plus en plus audacieuses dans ces séries extrêmement populaires. Ces feuilletons ont permis d'introduire des sujets jusqu'à présent tabous. Gros succès d'audience pour des séries sur les crimes d'honneur, par exemple, sur les mariages forcés aussi. Selon l'autorité régulatrice, ce genre de production se limite à des questions féministes, ignore les enfants, les adolescents et les hommes. Et c'est très grave là-bas.
Ben, c'est vraiment très grave. Et puisqu'on n'ignore pas les hommes, ici on va terminer avec un produit pour les hommes, justement. Peut-être un peu trop efficace et ça se passe en Zambie.
Oui, une boisson énergisante qui s'appelle Essex Energy Natural Power. Écoutez la pub, alors assez mal doublée en français, mais elle dit tout.
Mon nom est Johnson et chaque jour, je fais des travaux trop durs. Et après mon travail, mon corps est souvent fatigué. Quand je rentre à la maison, ma femme se plaint de ma faiblesse la nuit, mais on m'a conseillé de prendre Power Essex Acidé.
Alors, c'est pas ce qui travaille trop.
Purifie le sang, soigne la fatigue mentale, soulage l'indigestion et les douleurs abdominales, soigne les hémorroïdes, aide les diabétiques, élimine les graisses, tonique pour la virilité. Mais que je consomme Power. Tout ce qui m'est dérangé, parti, et j'ai retrouvé ma force. Et ma femme est satisfaite.
En tout cas, chérie, tu étais super.
Super, super, voilà. Alors, l'entreprise zambienne vient de stopper la production de cette boisson magique. Hein. Un client en Ouganda s'est plaint d'arythmie et surtout d'une érection qui a duré près de 6 heures. Dans la liste des ingrédients, il y a des extraits naturels de gingembre, de tonkatali. Alors, les deux substances aphrodisiaques sont connues. Mais l'autorité ougandaise du médicament y a aussi trouvé du sildenafil, c'est la molécule du Viagra. Ah. Ouais, côté zambien, on affirme qu'il n'y a jamais eu aucun problème avec la boisson entièrement naturelle. De là à réveiller une vieille compétition virile entre Zambie et Ouganda. Hein.
On ne veut pas le savoir. On ne veut pas le savoir. C'est vrai que les histoires de lits ne nous concernent pas. Nous aussi, on est très très choqués.
Non plus.
Allez, Amélie, merci.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati. Per l'Europe.
Un jour dans le monde.
Géniale.
Et l'Europe, comme tous les jeudis, telle qu'on l'aime ou qu'on la quitte, l'Europe dans ce qu'elle a de formidable ou de terriblement frustrant. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir Fabienne.
Angélique, qui est en Roumanie ce soir pour une cérémonie attendue, celle qui officiellement fait de la Roumanie. On en parlait justement hier dans Un jour dans le monde. La présidente de l'Union pour les 6 prochains mois, tous les commissaires sont là, ça se passe en grande pompe. Mais tout cela fait quand même aussi grincer quelques dents cette présidence. Du coup, j'imagine que derrière les petits fours et le champagne, Angélique, l'ambiance est un petit peu bizarre, non ?
Oui, côté face, il y a cette cérémonie officielle qui débute dans quelques instants. Nous sommes à l'Athénée roumain, très beau bâtiment néoclassique, au menu discours officiels qui seront, nous dit-on, très polis, puis concert de l'orchestre de l'Union européenne avec les musiciens de chaque État membre et des artistes roumains. Tout cela, vous le disiez, devant le collège des commissaires au complet, ainsi que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, mais aussi le président du Parlement et celui du Conseil européen. Côté pile, eh bien, il y a Fabienne de l'électricité dans l'air. On a appris en effet hier que l'homme fort du pays, le chef du Parti social-démocrate au pouvoir, Liviu Dragnea, a intenté une procédure contre la Commission de Bruxelles. C'était le 28 décembre dernier, soit 3 jours avant que le pays ne prenne la présidence. Et est-ce un hasard au moment même où Jean-Claude Juncker s'interrogeait dans la presse allemande sur la capacité de la Roumanie à gérer ce semestre européen ? Dragnea est soupçonné dans un dossier de fraude sur une construction de route avec des fonds européens quand il était élu local. Il conteste en justice donc la validité de l'enquête et cela jette un froid. Alors, sauf surprise, celui qui dirige de fait ce pays, mais qui n'a pas pu se faire élire, vous le racontiez hier, en raison de son passif judiciaire, n'a pas prévu d'être là ce soir. Il est élu au Parlement, qui ne siège pas en janvier. Il est donc en vacances, dit-on, ce qui arrange un peu tout le monde. C'est la première ministre qui est au premier rang et elle incarne ce pouvoir qui tente de museler ses juges et qui se fait régulièrement rappeler à l'ordre par Bruxelles.
Mais alors justement, à Bruxelles, Angélique, ça va se passer comment dans les 6 prochains mois ? Qui va représenter la Roumanie dans les instances européenne.
Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a une cohabitation explosive ici entre le président de centre droit Klaus Iohannis, qui est un pro-européen, et cette première ministre Viorica Dencila. Dans les sommets européens, c'est le président qui siège, hein, pas elle normalement. Or, elle souhaite désormais intervenir un peu plus pour porter la politique de son pays. Elle l'a fait savoir. Rappelons qu'en France, sous la cohabitation, hein, le président et son premier ministre siégeaient tous les deux. Ici à Bucarest, la question, Fabienne, elle s'est déjà posée. C'était en 2012 et on se souvient d'un sommet européen un peu rocambolesque où le premier ministre roumain avait sauté dans un avion pour représenter son pays et griller la politesse au président. Il avait saisi la Cour constitutionnelle roumaine. Elle a statué depuis, c'est bien le président qui représente la Roumanie. Viorica Dencila ne siégera donc pas, mais elle pourrait décider de venir sur des réunions au niveau ministériel, ce qui serait assez inédit. Cela donne encore là une idée du climat.
Alors sinon, quand même, les Roumains vont travailler hein, pendant ces 6 mois et les priorités de cette présidence, on les connaît déjà, j'imagine ?
Oui, c'est aussi à cela que sert ce voyage, les présenter sous forme de conférences. Alors on est un peu sous forme de colonie de vacances hein, avec les commissaires européens qui sont accompagnés d'une cinquantaine de journalistes. Ce voyage a lieu à chaque changement de présidence, tous les 6 mois. La Roumanie a donc plusieurs priorités. Tout d'abord de renforcer la cohésion, en clair, continuer à rapprocher économiquement et socialement les pays du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest de l'Union européenne, renforcer aussi la sécurité en Europe. Mais il est aussi écrit dans sa feuille de route la défense des valeurs communes de l'Europe, Fabienne, d'une Europe démocratique, pratique et tolérante, qui combat le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et le populisme. Et cela, ça sonne comme de grandes phrases pour les opposants qui sont quelques 200 en ce moment même à manifester ce soir devant l'Athénée, des opposants à la loi d'amnistie qui...
on a perdu Angélique Boin.
Être voté très prochainement et qui constituerait un camouflet pour les Européens.
Voilà, on vous a presque perdu Angélique, mais on vous a retrouvé. Merci beaucoup en direct avec nous dans Un jour dans le monde depuis Bucarest. Zodak Black est sur France Inter. La chanson s'appelle Tsetse que je sache et ils sont New-Yorkais.
Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took an island, fled the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Bitches undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free. And we out in these streets. Can you do it? Can you pop it for me?
Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit.
Blow the brains out the coupe. Pulling one on top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Fuck her on the yacht, I've been a pool. She an addict, addict for the lifestyle in the paddock. Daddy, how you ever felt Chanel fabric? I be dripping to death, I need a casket. And we got more strikes in the rough, we foul tech em. In the middle of the field, like David Beckham. All my niggas locked up for real, I'm tryna help em. When I got a meal, got me the chills, don't know what happened. Pop pill, do what you feel, I'm on that zombie. I'm more like Gaddafi, I'm not no Gandhi. I'm more like I'm David Goliath running. Niggas be cloning, I find it funny. Clone. We finna know, straight out of the dungeon. Finna know, I go in the mouth, she costing me nothing. 300 the watch, it's out of your budget. Mean muggin' got me clutching. Yeah, and this stick right out of Russia.
Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took an island, fled the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Bridges undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free. And we out in these streets. Can you do it? Can you pop it for me?
Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit. It's that Z shit. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit.
In a Hellcat, cause I'm a Hellraiser. Self-made, I don't owe a nigga nay in favor. When you get that money, nigga, keep your heart. I'm sliding in a coupe, ain't got no key to start. I got to follow me in BET Awards. When your well run dry, you know you need me for it. When I pull up in a Buick, you know what I'm doing. If the police get behind me, fleeing any lure. Sleeping on the pallet, turn me to a savage. I'm a project baby, now I stay in Calabas. Like I'm still surfing, like I'm still jacking. I be sipping on lean, trying to keep balance. Hit that Z-Walk, dicky with my Reebok. I don't say much, I just let the heat talk. Your jewelry water whoop, diamonds like re-rock. My little baby rock that dick like C-Lock.
Kodak Black sur France Inter.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, après une semaine d'attente, donc, les résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo ont été proclamés. Ça s'est passé la nuit dernière. Victoire d'un opposant, donc, Félix Tshisekedi, il va falloir apprendre à le prononcer. À première vue, c'est un événement démocratique majeur, mais sa victoire est contestée sur un autre opposant. Et du coup, la question que vous posez ce soir, c'est regardez le verre à moitié vide ou à moitié plein, et c'est votre monde à l'envers.
Alors commençons par le verre à moitié plein, parce que ce n'est pas rien ce qui vient de se passer en RDC. Un pouvoir en place reconnaît sa défaite, admet la victoire d'un opposant, c'est un symbole fort. En plus, petit retour en arrière quand même, au départ, le clan Kabila au pouvoir depuis 20 ans avait tout organisé pour conserver le pouvoir. D'abord en reportant l'élection depuis 2 ans, ensuite en choisissant un poulain, Emmanuel Ramazani Shadary, tout était prévu pour que ce soit lui le vainqueur. Et au bout du compte, le pouvoir cède. Il admet que les Congolais ont fait un autre choix. Respect. Dans d'autres pays d'Afrique, le Cameroun, le Gabon, le Togo, le pouvoir en place n'aurait pas eu de scrupules pour forcer le passage, malgré le désaveu des urnes. En plus, c'est un opposant historique qui est déclaré vainqueur. Fachi, comme on le surnomme à Kinshasa, c'est l'héritier de son père, Étienne Tshisekedi, emprisonné sous Mobutu. Le symbole est fort, pourquoi ? Parce que la RDC n'a jamais connu de transition pacifique en près de 60 ans d'indépendance. Assassinat de Lumumba, dictature de Mobutu, coup d'état de Kabila, c'est donc historique. Et toute l'Afrique regarde parce que le Congo, c'est un géant, c'est le plus grand pays du continent avec l'Algérie, c'est le plus peuplé des pays francophones. Donc pour toute l'Afrique, cette alternance est un événement d'une portée majeure, oui.
Et alors le verre à moitié vide, du coup ?
C'est tout simple, de nombreux indices laissent penser malgré tout un déni de démocratie. D'abord, les règles fondamentales d'un scrutin transparent n'ont pas été respectées. De nombreux Congolais ont été empêchés de voter. Et surtout, on peut penser que le vrai vainqueur dans les urnes était l'autre opposant, Martin Fayulu. C'est ce que laisse entendre la puissante conférence épiscopale du Congo, qui avait déployé 40 000 observateurs sur le terrain. Voici son communiqué, je vous le lis. Les résultats publiés ne correspondent pas aux données collectées par notre mission d'observation. Fayoulou aurait obtenu plus de 50% des voix, mais la commission électorale ne lui en attribue que 34 contre 38 à Tshisekedi. Alors pourquoi une telle embrouille au profit de Tshisekedi? Sans doute parce que c'est le moins radical des deux opposants. On le soupçonne d'avoir ces derniers jours passé une sorte d'accord en coulisses avec le pouvoir de Joseph Kabila. Les proches du président sortant pourraient avoir obtenu des garanties, ne pas être inquiétés, conserver le contrôle de plusieurs dizaines d'entreprises, voire la maîtrise des forces de sécurité. Il y aurait donc quelque chose de pourri en ce royaume, comme aurait dit Shakespeare, un miroir aux alouettes.
Et alors la suite, c'est quoi?
Alors, on peut avancer trois hypothèses au moins. La première, c'est la pessimiste, c'est la flambée de violence. Les partisans de Martin Fayoulou, le vainqueur floué, laissent éclater leur colère. Il y a déjà eu quelques incidents aujourd'hui. Le pays peut basculer dans le chaos. Et de façon inattendue, c'est d'ailleurs le risque que semble prendre la France avec une déclaration assez peu diplomatique du ministre des Affaires étrangères ce matin, Jean-Yves Le Drian. Une déclaration de soutien à Martin Fayoulou, donc elle peut pousser ses partisans à se soulever. Deuxième option, optimiste, Tshisekedi tend la main à Fayoulou pour gouverner ensemble, ou bien autre variante, la Cour constitutionnelle est saisie, inverse les résultats du scrutin, la démocratie l'emporte. C'est possible, mais improbable quand même, parce que les magistrats de la Cour sont très liés au pouvoir sortant. Troisième option, le statu quo, cette demi-transition démocratique est avalisée par l'ONU, par les grands pays africains, notamment l'Afrique du Sud, et les grandes compagnies minières internationales, omniprésentes au Congo, mettent discrètement la main au pot pour acheter la paix sociale. Rappelons que la RDC possède l'essentiel des réserves mondiales de coltan et aussi en partie de lithium, indispensable à nos ordinateurs et à nos téléphones portables. Parce qu'il faut le rappeler, et c'est là le sujet de fond, les Congolais sont très pauvres, alors que le Congo est très riche, son sous-sol vaut une fortune. Alors, allez, vous voulez un verdict, allez-y, verre à moitié vide ou verre à moitié plein? Bien, vu que jusqu'à présent le verre des Congolais était totalement vide, on va quand même se féliciter ce soir qu'il soit un peu moins vide.
Et on suivra en tout cas très très près Jean-Marc Four, Le Monde à l'envers. Merci beaucoup, on reste ensemble évidemment pour Le Téléphone Sonne, ne bougez pas, et belle soirée avec nous.